Bonjour à tous, c'est une émission, j'ai beaucoup de plaisir de recevoir aujourd'hui Jacqueline Mourot. Voilà.
Bonjour.
Vous êtes au sein du mouvement Reconquête, porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour. Et Jacqueline, votre notoriété nationale, internationale, parce que la presse en a parlé dans le monde entier, a commencé avec cette affaire des Gilets jaunes. Voilà. Et puis avec nous également présent dans le studio, un Guérandais. Mais Jacqueline est aussi guérandaise, il faut le savoir, même si elle est morbihanaise en ce moment. C'est Jean Gauchemann, vous avez été conseiller régional des Pays de la Loire, cher Jean.
C'est exact.
Vous avez été longtemps au sein du Rassemblement National, c'est ça?
Oui.
Et vous avez rejoint Éric Zemmour.
Et j'ai rejoint Éric Zemmour au niveau de l'élaboration de son programme.
Voilà. Et on sait à quel point vous êtes très très attaché aux questions géostratégiques, à toutes ces questions.
Oui.
Indépendance nationale, image de la France.
Absolument, et c'est dans le cadre de l'indépendance nationale d'ailleurs que je suis beaucoup intervenu, et notamment dans le domaine de l'énergie et les solutions qui puissent donner à notre pays son autonomie énergétique la plus rapide possible.
Voilà. Et vous avez donc, là vous accompagnez Jacqueline Mourot qui est présente. Jacqueline, merci, c'est une région que vous connaissez, chère Jacqueline.
Alors oui, évidemment Guérande je connais puisque j'y suis née. Il y a quelques années déjà, du temps où il y avait une maternité, qu'il n'y a plus aujourd'hui.
C'est la légende qui dit ça, ouais.
Voilà.
Maintenant, on sait que vous êtes guérandaise.
Voilà.
Avant de commencer notre entretien, Jacqueline Mourot, on a quelqu'un au bout du fil. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors, vous avez récemment, dans une émission de télévision, évoqué Jacqueline Mourot et dire à quel point elle comptait. Et ben voilà, j'avais envie que vous le lui disiez, puisqu'elle est avec nous dans le studio, et on va dire après qui c'est. Ou peut-être qu'elle vous reconnaîtra, évidemment.
Écoutez, c'est très gentil. Écoutez, sans Jacqueline Mourot, il n'y aurait jamais eu le mouvement des Gilets jaunes. Et j'ai simplement constaté, si vous voulez, que sur 40 millions d'habitants de Français adultes, il n'y en a eu que un seul qui, d'un seul coup d'un seul, s'est énervé, a pris sa caméra et son compte Facebook pour exprimer son ras-le-bol du racket que menait le gouvernement Macron sur les augmentations des taxes et de l'essence. Et cette personne, bien entendu, c'est Jacqueline Mourot. Voilà, donc je la considère comme la meneuse, comme celle qui a révélé au monde, parce que c'est pas seulement en France, je veux dire, le monde entier s'est penché à regarder avec effroi ce qui se passait en France pendant à peu près 3 semaines, les destructions des Champs-Élysées, la destruction de tout le quartier de ce qu'on appelle le triangle d'or, et il s'en est fallu de très peu pour que les Gilets jaunes s'emparent de l'Élysée. Voilà.
Alors, vous l'avez reconnu ?
Alors oui, je l'ai reconnu, évidemment. Bonjour, monsieur Jovanovic. Je suis
bonjour,
absolument ravie de vous entendre. C'est une belle surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout.
Oui, on vous a rien dit.
Ah oui, on ne m'a rien dit du tout. Et franchement, je suis évidemment ravie de vous entendre. Et je suis touchée par tous ces mots d'éloge à mon égard. Je ne sais s'ils sont vrais, mais en tous les cas, ils me vont droit au cœur.
Ah, vous le savez pertinemment qu'ils sont vrais, d'autant que j'ai fait une grande interview de vous sur quotidien.com. Donc, je ne l'aurais jamais fait si je n'en pensais pas un mot, Jacqueline, enfin.
Oui, écoutez, merci beaucoup. Et puis, parce que je pense que vous faites partie des personnes qui ont compris ce que j'ai subi par la suite. Et tout ce que ça m'a coûté, en fait, parce que quand on se retrouve dans une lessiveuse comme ça, c'est toute sa vie qui change. Donc, je suis extrêmement touchée par votre présence sur ce plateau, même téléphonique. Voilà. Franchement, ça fait plaisir.
Ouais, en tout cas, c'est très gentil. Tout l'honneur vous en revient, parce que sincèrement, moi, je me suis rendu compte, si vous voulez, que à quel point, en fait, ce mouvement des Gilets jaunes a été littéralement dévoyé et surtout tout a été fait
repris par l'extrême gauche, hein, c'est ce que vous voulez dire, Pierre.
Oui, tout à fait. Mais surtout, si vous voulez, le mot d'ordre à l'époque a été donné dans les médias, BFM. À l'époque, c'était iTélé, hein, ça s'appelait pas CNews, France 2, TF1, etc. Surtout, ne pas parler des gilets jaunes et la raison pour laquelle il y a eu ce mouvement. Le seul souci, c'est que peu importe qui va être élu à la présidence de la République d'ici 3 semaines, clairement, ce mouvement des gilets jaunes va revenir sur le tapis et beaucoup plus violent qu'on considérant, si vous voulez, les hausses massives et surtout les hausses massives de l'essence, bien entendu, mais surtout que jusqu'à présent. Le gouvernement a tout fait pour ne pas imposer des mesures drastiques d'impôts supplémentaires sur les Français, mais je peux vous dire que juste après l'élection présidentielle, le massacre des innocents va littéralement commencer, puisque nous sommes au même niveau, nous, aujourd'hui en 2022, que la Grèce en 2009-2010. Voilà.
Et d'ailleurs, Charles Gave, vous connaissez, je touche Charles Gave, il y a quelques jours sur notre antenne, il disait il faudra s'attendre, si Macron est réélu, à des gilets jaunes puissance 10. Voilà. Vous multipliez par 10.
On est tout à fait d'accord. Voilà, on a des analyses sur des critères, Charles Gave et moi, on a des analyses différentes parce qu'on se repose sur différents critères, mais le point important, justement, c'est qu'on se rejoigne là-dessus. Là, c'est effectivement très clair.
Eh ben merci Pierre d'avoir rendu cet hommage à Jacqueline Mourot.
Merci.
On voulait lui faire
beaucoup,
une petite surprise,
Pierre,
en commençant cette émission.
Merci.
Merci à vous deux.
À bientôt Pierre, merci. Au revoir.
À bientôt Yannick.
Pierre Jovan, tu as une petite surprise, hein, on ne vous a pas prévenu, chère Jacqueline.
Non, vraiment, vraiment, ça fait plaisir parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait.
Et il est suivi par des millions de personnes.
Ah oui, mais c'est quelqu'un qui est formidable et extrêmement intéressant. Tout comme Jean qui est à côté de moi, ouais. À qui je voudrais rendre hommage parce que Jean est devenu aujourd'hui un ami.
Jean Gauchemin,
et,
ouais.
Et c'est vraiment quelqu'un de très, très grande qualité, d'un niveau d'écoute exceptionnel et avec qui on peut échanger. Enfin, moi, je n'aurai que d'éloges pour vous.
Alors... Je vais me concentrer sur vous, chère Jacqueline. On va parler de sujets qui vous préoccupent, que vous connaissez bien, puisque un programme politique, forcément, on pourrait parler de politique internationale, de la diplomatie, etc. Mais on sait que c'est moins votre domaine. Vous, c'est la question du pouvoir d'achat. On voit cette essence qui augmente sans cesse, le prix de l'électricité, les salaires qui ne peuvent pas augmenter. C'est pas de la faute des entreprises, parce que le carnet de commandes, parfois, est difficile. On peut pas augmenter les prix non plus. Que faire face à cela, puisque maintenant vous êtes femme politique?
De toute façon, déjà, la première des choses, c'est qu'il faut que le conflit en Ukraine s'arrête. Parce qu'on voit bien que, bien sûr, il y a une part de responsabilité par rapport... Je parle par rapport au prix du carburant. Mais on se sert aussi... De ce conflit pour augmenter le prix du carburant. Donc, il y a un moment, il faut que tout ça s'arrête, bien sûr. Et le conflit, bien entendu, par les pertes humaines qu'elle provoque, et je m'en fous des camps, en fait, que ce soit ukrainien ou russe, pour moi, quelqu'un qui décède, eh bien, c'est toujours une famille endeuillée, peu importe la nationalité. Mais il faut bien sûr que tout cela s'arrête. Et après, ce qu'on va avoir à faire... Avec tout l'espoir que je mets dans la candidature d'Éric,
Zemmour,
bien entendu.
C'est leur voiture qui nous rejoint.
C'est surtout qu'il va falloir faire le bilan d'Emmanuel Macron. Parce qu'il ne veut pas le faire lui-même, mais il va falloir faire un état des lieux de sortie. Parce que je pense qu'on va avoir d'énormes surprises.
Alors, il y a plusieurs problèmes qui se multiplient. D'abord, sur l'automobile. Dans nos campagnes, Jean Gauchemin, qui sait bien qu'on a l'obligation d'avoir une automobile, vous êtes dans le Morbihan, là pour venir, vous êtes venu avec une voiture. Est-ce qu'il faut... Vous savez qu'à partir d'une date, je crois que c'est 2035 ou 2030, il y a l'interdiction de vendre des moteurs thermiques pour passer au 100% électrique. Faut-il, vu le prix des voitures thermiques, vu l'état de la recherche, on sait que dans 10 ans, on ne pourra pas avoir le confort d'une voiture électrique comme on a le confort d'une voiture thermique. Parce qu'un garagiste me disait en plaisantant, j'aimerais bien voir le 31 juillet et le 1er août dans les stations-service de l'autoroute du sud de la France vers Lyon, Valence et Montélimar, les files quand il faut 45 minutes ou 30 minutes pour charger une voiture. Faut-il retarder cette échéance et autoriser les voitures normales, voilà, que l'on connaît, peut-être pendant 10 ou 15 ans de plus ?
Moi, je prends la parole. Moi, je pense que dans toutes les mesures qu'on a besoin d'adapter à propos du réchauffement climatique et tout ce qu'on veut faire pour le bas carbone et tout ça, la dernière chose, les dernières mesures, c'est le changement de véhicule des particuliers. Tout comme ce qu'on aurait dû faire avec la monnaie, l'euro, c'est-à-dire tout harmoniser d'abord et la monnaie arriver en dernier. Or, on fait l'inverse. Eh ben, on appauvrit toutes les populations. Non seulement on les appauvrit, mais on les empêche d'aller travailler. Puisqu'on a besoin de nos véhicules. À 2 euros, enfin moi j'ai fait un plein l'autre jour sur la 4 voies, 2,49 euros le litre. Mais vous vous rendez compte, c'est pratiquement du simple au double en quelques mois. Donc il faut absolument arrêter... Il faut arrêter ce matraquage. Parce que là, on a quand même un petit peu le sentiment que le gouvernement est en train de se remplir les poches pour boucher les trous. Étant donné qu'il y en a partout, évidemment, et ben c'est encore le Français qui paye.
Voulez-vous dire par là ? Oui, Jean ?
Oui, je voudrais simplement dire que le problème des véhicules dits tout électriques a été un petit peu au centre de notre réflexion énergétique en ce qui concerne l'équipe programme donc du pôle énergie à laquelle j'appartenais, et j'appartiens toujours d'ailleurs, parce qu'il y a tout un tas de choses qui n'ont pas été abordées, mais qui sont absolument nécessaires au cas où on voudrait, avancer davantage dans cette idée qui est totalement irréaliste. D'abord, le problème qui n'est jamais abordé, c'est comment allons-nous fournir l'électricité nécessaire au fonctionnement de ces voitures électriques ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un nombre relativement faible, pour ne pas dire inexistant, de véhicules électriques. Bon, tout se passe bien. À partir du moment où il s'agit de remplacer une flotte complète, les données ne sont plus du tout les mêmes. Et là, aujourd'hui, en France, on n'a pas la capacité électrique pour chaque soir recharger les batteries de ces véhicules. Bon, simplement un chiffre, mais qui résume tout. Pour avoir l'équivalent d'un litre de carburant du point de vue énergétique, il faut entre 12 et 14 kilos de batterie. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, mais déjà ça donne l'état, comment dirais-je, de ce qui pourrait être fait.
Alors j'allais poser comme question à Jacqueline Moreau, est-ce que ça veut dire que la femme politique doit aussi se dire que vous êtes, avant de prendre une décision, on doit d'abord penser aux plus pauvres d'entre nous. Et quel est l'impact que cela aura dans les plus pauvres
Mais cela va de soi.
Vous dites ça va de soi, mais ce n'est pas ce qu'on vit depuis 20 ans ou depuis 30 ans.
C'est pas ce qu'on vit, évidemment, puisque toutes les décisions sont prises à l'intérieur d'un bureau par des énarques qui sont devant des écrans d'ordinateur avec des statistiques. Mais le français n'est pas une statistique. Enfin, il faut que ces gens-là descendent de leur perchoir, qu'ils aillent passer 5 ans minimum, avec moi ça serait 5 ans, 5 ans minimum dans le privé, dans les territoires, et voir comment on fait pour se débrouiller, notamment pour les déplacements. Puisque, regardez, quand je vais à Paris, je dois aller en voiture prendre un TER, je fais 17 km en voiture. Je prends un TER qui m'emmène à Rennes pour prendre un TGV. Si je n'ai pas de voiture, comment je fais ? Comment ces gens-là peuvent répondre à ça ?
On va vous répondre, faites du vélo, madame.
Mais enfin, 17 km en vélo avec mes valises. Et, ouais. Ça c'est la réflexion de l'écolo de base. Hein.
Voilà ce qu'on va vous répondre. Il y a l'automobile, il y a aussi la loi climat sur le logement. Il y a aussi ce fameux DPE énergétique, avec des millions de logements qui vont sortir du parc locatif dans les années qui viennent, il faut aussi s'interroger sur ses conséquences.
Mais de toute façon, avec les DPE, tout est bon. En fait, on a l'impression que là aussi, globalement, tout est devenu une traque. La traque au conducteur, la traque à la consommation de ceci, la traque au logement. nous sommes traqués et raquettés en permanence. Mais il faut... Pompidou le disait déjà, arrêtez d'emmerder les Français. Mmh. Évidemment, nous, on a un président qui pense l'inverse. Comment voulez-vous qu'il fasse une politique en faveur des gens qu'il gouverne, du peuple français, puisqu'il nous déteste? Il ne nous connaît pas. Donc, on ne peut pas gouverner des gens qu'on ne connaît pas.
On est traqué depuis son enfance, hein, finalement, on se dit,
ah bah, qu'est-ce qu'on fait sur Terre de, du baptême à l'extrême onction, c'est une traque permanente.
Alors, du discours, votre discours entre Cadéro, vous avez évoqué le permis à points.
Oui.
Là aussi, ça fait, on a le sentiment aussi d'une injustice. Ok, il faut traquer les chauffards de la circulation, mais entre traquer les chauffards et celui qui est pris à 135 km/h sur une autoroute en ligne droite en pleine nuit, on ne peut pas dire que c'est un chauffard.
Bah, bien sûr que non. Et puis combien de personnes? Là, je suis certaine que les gens qui nous écoutent dans leur voiture savent très bien qu'on se fait tous prendre parce que, alors, c'était limité à 110, on reçoit le PV à 111. C'était limité à 50, on reçoit le PV à 51. Eh bien, ça, faut que ça se termine. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Alors, de toute façon, avec le permis à points, ça permettra que les gens qui ont un travail ne perdent pas leur boulot. Parce que...
Qu'est-ce que vous voulez faire, alors?
En supprimant... On supprime le permis à points.
Pas mettre 50 points, 60 points...
Non, on supprime le permis à points. Par contre, on laisse les radars. Et laisser les contraventions normales, voilà. Mais il faut arrêter. Enfin... Le permis à points, on voit bien que quand les gens arrivent à 4 points, 3 points, ils sont obligés d'aller faire un stage qui coûte entre 200 et 300 euros. Mais vous vous rendez compte sur un SMIC ce
et
que
l'angoisse
ça fait ? Mais quand on
d'un
a...
artisan qui peut tout perdre.
Mais c'est enfin, pour nous, c'est inimaginable. Mais pour eux, ils s'en foutent. Passez-moi l'expression. Ils s'en moquent totalement, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est pour un artisan de perdre son permis alors qu'il en a besoin. Vous savez, dans le temps, mais vous avez connu ça certainement, je ne veux pas dire que vous êtes caché, il y avait les permis blancs.
Ouais.
Il y avait les permis blancs. La personne
avait le droit de conduire pour aller travailler.
Enfin, quand même, pourquoi on n'a pas laissé ce dispositif? Là, on a préféré mettre les gens au chômage. Mais enfin, c'est quoi la démarche de bienveillance dans cette mesure?
C'est de la maltraitance.
Ben, tout à fait. Ben, là,
humaine.
Ça fait quand même des années qu'on est dans la maltraitance.
D'ailleurs, le permis à points, il faut quand même le rappeler, a été voté par un ministre communiste. C'était loi communiste. C'était Jean-Claude Guesso qui avait fait voter cette loi, le permis à points et la traque contre l'automobiliste, que des sociologues avaient d'ailleurs expliqué à l'époque, ce qui peut amener à parler de l'automobile, mais aussi du logement, que cette volonté, les premières volontés de lutter contre l'automobiliste étaient d'abord de s'attaquer à la propriété privée. Parce que le symbole de la propriété privée et de la liberté contre le collectivisme, c'est l'automobile. La première chose que veut un jeune garçon de 18 ans, c'est avoir son permis de conduire et sa bagnole pour aller prendre sa petite chérie, l'emmener au bord de la mer, faire son premier baiser le soir quand la nuit tombe tranquillement dans la voie. Mais c'est ça, c'est l'automobile.
Absolument.
C'est la propriété privée. Dire, on s'engueule avec ses parents, je me cache, je pars en week-end. On met tout dans le coffre et on est libre de partir où l'on veut, sans calculer. Et c'est ce qui a gêné. D'abord, tous ceux qui sont pour le collectivisme, ils sont attaqués à l'automobile. On a vu le résultat de cette politique. Et l'autre symbole de la propriété privée, c'est le logement. C'est pour ça qu'on nous parle aujourd'hui de la densification. On nous parle de ne plus vivre dans des maisons individuelles parce que ça dérange et ce n'est pas écologique. Le même argument est pris pour l'automobile. Et vivre dans des cages à lapins et dans des immeubles.
Ah, mais de toute façon,
la collectivité.
Absolument. Mais enfin, pour nous, pas pour eux. Attention. Ça, c'est des politiques pour nous, le petit peuple. Mais eux, ils vont garder leur grande propriété. Le problème n'est pas qu'ils aient une grande propriété. Le problème est qu'ils n'acceptent pas que nous ayons une propriété privée. Alors moi, je dirais, je ne vais pas être atteinte, je ne possède rien. Je fais partie des gens, je ne m'attache pas aux choses, je m'attache qu'aux personnes. Mais en attendant, quand même, en France, jusqu'à présent... Nous sommes libres d'avoir un véhicule, nous sommes libres d'avoir une maison, un toit où vivre.
Et son potager.
Et nous sommes libres de faire pousser nos tomates dans le potager. Alors qu'est-ce que c'est que cette façon ? Emmanuel Wargon a dit, la propriété privée, c'est surfait.
La maison individuelle.
Alors, donc, il faut bien que les gens comprennent que si Emmanuel Macron repasse, les voitures, ça sera terminé. Alors, en plus, moi, j'ai énormément d'admiration pour ceux qui font les collections, qui ont des très anciennes voitures. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va devenir ? Et la propriété privée, ça sera terminé. Il faut bien que les gens soient conscients de ça. Donc, pour mettre son bulletin de vote, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous avez envie de tout perdre ?
D'ailleurs, la propriété privée est largement remise en question par la multiplication des taxes, des impôts, des droits de succession. On nous parle de la taxe, taxe foncière.
C'est
voilà.
pour ça qu'Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation
non.
et il a
moi,
augmenté
payé. Non, non,
la
non.
taxe foncière.
Alors, Madame Moreau, moi, je suis journaliste, je dis ce qui est vrai. Je suis pour l'instant, j'ai payé une taxe foncière encore, cette année. Voilà.
Mais c'est, donc, oui, là, mais c'est ce que je
payé,
viens de vous dire.
J'ai payé une taxe d'habitation,
je voulais dire.
Cette,
oui.
Je l'ai payé cette année, donc voilà.
Donc
il ne l'a pas supprimé.
Parce que c'est dégressif.
Oui, ben, ça ne me regarde pas, alors dans ces conditions, que l'on ne dise pas qu'on l'a supprimé.
J'en connais plein qui l'ont, qui la payent encore, tout à fait.
Voilà, jusqu'à présent, on a appris le français, vous comme moi.
Tout à fait.
Donc
il n'a pas supprimé. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Qu'est-ce qui vous a motivé? Quel est ce. On sent en ce moment, il y a une couveuse hein, dans le pays, un vrai ras-le-bol.
Ah,
comment vous ressentez-vous?
Complètement.
Chez vous,
enfin, de toute façon, là, on vit sur une poudrière. On est. Tous les jours, il se passe quelque chose qui peut faire basculer la balance du côté explosif, en fait. Hein. On est. On a en plus des. Ceux qui nous gouvernent, ce sont des gosses qui jouent avec des allumettes sur le baril de poudre.
C'est le cas de le dire en ce moment.
Ah bah
en ce moment, c'est un peu d'actualité.
Ah bah de toute façon, c'est ça. Donc la situation en France, on est sur le fil du rasoir depuis des mois. Mais plus on avance et plus la pression se fait sentir en fait. Et tout ça, alors là, si Emmanuel Macron est réélu, il est clair que tout ça va exploser. Hein.
Qu'est-ce qui fait, vous, à titre personnel, que vous avez choisi de vous engager pour Éric Zemmour, Jacqueline Moreau, vous auriez pu aller chez Mélenchon, chez Valérie Pécresse, chez Nicolas Dupont-Aignan, chez Jean Lassalle, chez Marine Le Pen, bon, chez Emmanuel Macron, ça, je ne vous le dis pas, ça, j'imagine que non.
Il n'y a pas de danger.
Chez Annie Hidalgo, non plus.
Enfin,
voilà,
moi.
Mais je vous ai cité un panorama.
Alors, il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, je partage globalement le point de vue d'Éric Zemmour. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais ce que je mets au-dessus de tout, c'est la France. C'est la nation, c'est notre patrie. Et j'ai exactement le même point de vue que lui à propos de ça. Nous sommes en train de perdre la France. Là, on a tous le sentiment à Reconquête d'être au chevet de quelqu'un qui est en passe de disparaître. Et il n'y a que nous
qui pouvons... Ce quelqu'un, c'est notre pays.
C'est notre pays, ouais. C'est la France. Tout à fait.
Mais pourquoi alors que ce que vous dites, il est ressenti de façon très différente selon les catégories sociales? Certaines personnes, c'est sur le plan économique, le PIB, les exportations qui sont catastrophiques. Le chef d'entreprise va vous dire ça. Lui, l'immigration, il ne sera pas concerné. Puis après, vous allez voir une autre personne dans une autre campagne qui sera concernée par l'agriculture, qui dit on ne fait plus rien. Et puis après, vous allez voir une personne dans une banlieue qui va vous parler que d'immigration.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que ces Frances ne se comprennent pas et ne se parlent pas?
Ah, mais ces Frances... Moi, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ces Frances ne se comprennent pas. Je pense qu'on a tellement de problèmes... En fait, j'avais dit ça au début des Gilets jaunes, je m'en souviens. Tous les pans de la société sont en train de s'effondrer en même temps, parce que tous les systèmes ont une fin. Et quand on a des gouvernements qui, au lieu de prendre des décisions en faveur du peuple, les ont pris en leur faveur à eux, eh bien, au bout de 40 ans, on aboutit à ce qu'on est en train de connaître là. Donc, c'est France, la fracture française, justement, que moi, je connais très bien. Elles se parlent, mais elles vont nous communiquer leur malaise dans leur domaine, évidemment. Mais on est tous dans le même bateau. Il y a des problèmes dans toutes les corporations et sur tous les territoires de France. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, ce que je mets au-dessus de tout, c'est la patrie, c'est le pays. Je mets même ça au-dessus de notre pouvoir d'achat, de nos déplacements. C'est, s'il n'y a plus de France, il n'y a plus rien. On va se retrouver, si Emmanuel Macron repasse, nous allons devenir une banlieue, un quartier européen.
Comment pouvez-vous dire ça, Jacqueline Mourot, alors que tous les débats ces derniers mois, voilà, c'était les vaccinés contre les non-vaccinés. Maintenant, c'est les poutinistes contre les anti-Poutine. Il n'y a plus de solidarité, de cohésion française, de alors, cohésion nationale.
Non, il n'y a plus...
J'ai l'impression que les Français ne s'aiment plus entre eux.
Alors ça, je le constat que vous faites là, c'est, je l'ai entendu beaucoup de fois. Mais c'est faux. Cette impression, justement, ce n'est qu'une impression et qui est fausse. Emmanuel Macron a réussi à tellement diviser le pays qu'il a réussi à faire croire aux gens qu'il ne s'aimait pas. Mais c'est totalement faux. Regardez le meeting du Trocadéro. Regardez comment les gens, il y a du bonheur dans les meetings. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si les gens se rendent compte qu'actuellement, en France, il se passe quelque chose. Avec la candidature d'Éric Zemmour, il se passe quelque chose. On est en train de refaire France, justement. Et ça, si vous saviez le bonheur que ça peut nous procurer, et donc c'est pour ça qu'évidemment, il y a une très très grande ferveur autour de lui et de sa candidature.
Il y a une ferveur, vous le dites. Bon, il y a un mystère aussi sur ce qu'on appelle le vote caché, etc.
Hein. Bon, oui, ça, il est énorme. Hein. Il est énorme dans le cas d'Éric Zemmour, hein. Le vote caché.
Qu'est-ce qui se passe, vous, quand vous circulez dans la rue, quand vous allez acheter votre pain dans votre Morbihan?
Moi, c'est simple. Hein, les gens me font des petits signes en levant le pouce, en me disant « ouais, c'est bon ». Parce que en fait, on est dans une société aujourd'hui où on n'a plus le droit de rien dire. Attention, le moindre mot va être retenu contre vous. Donc que font les gens? Mais ils disent rien.
Ça s'appelle le vote caché.
Bah, bien sûr, ils ne disent rien. Bah,
on est dans une société où il fallait remplir une attestation pour aller faire pisser son
mais
chien.
Mais bien sûr.
Donc à la fin, même George Orwell aurait écrit ça.
Ah mais c'est Orwell et Huxley mélangés. Hein.
Ils auraient écrit ça dans leur bouquin, on aurait dit c'est pas possible.
Mais bien sûr, mais bien sûr. Ce qu'on est en train de vivre là, on est en train de basculer dans une véritable société de surveillance. D'ailleurs, un truc tout symptomatique que j'ai vu ce midi. J'ai reçu ma nouvelle carte d'électeur. Il y a un QR code dessus. Voilà. Bientôt la carte d'électeur, ça sera le QR code dans le téléphone, parce qu'ils veulent.
Bientôt on vous la tatouera peut-être.
Ah mais bien sûr,
bois, hein.
Ils veulent absolument que le citoyen soit numérisé et enfermé dans le webistan. Et ben quand on en sera là,
ça
sera trop tard pour pleurer.
Ça, je vous la piquerai, Jacqueline Mourot, celle-là. Le webistan.
Bah, mais c'est ça qui nous attend.
Avec la disparition de l'argent liquide.
Alors la disparition de l'argent liquide, ils hésitent encore.
Allemagne, on paye tout en liquide. Qu'ils hésitent, c'est que les Allemands sont contre.
Ben, y a des résistances, tout simplement, parce que les valises pleines d'argent liquide, ça va être plus compliqué pour eux.
Oui. En Allemagne, vous pouvez aller acheter une Mercedes avec une mallette.
Hein. Ah oui, oui. Mais je voudrais quand même dire aux gens qui nous écoutent, aux personnes qui nous écoutent, qu'un exemple tout bête. Le paiement sans contact, c'est un test pour savoir si les gens peuvent se passer d'argent liquide. Mmh. D'ailleurs, on voit que la limite augmente. Avant, c'était juste pour acheter une baguette. Ah bah tiens, maintenant, on va pouvoir remplir un caddie. Et encore, remplir un caddie avec 50 euros, il n'y a plus rien dedans. Hein. Aujourd'hui, c'est le fond du caddie. Hein. Mais ça, c'est pour voir si la population est capable de s'accoutumer à ne plus vivre avec de l'argent liquide.
Ben oui, mais c'est pratique. Moi, je reconnais que c'est pratique.
Alors, je reconnais que c'est pratique, mais moi, je l'ai pas mis. Je fais de la résistance. Il faut qu'il y ait des résistants pour ça. Parce que si on ne résiste pas à tout ça, mais tout passe. Regardez comme les attestations, les confinements, les ceci, les cela. Mais ça passe crème, comme disent les jeunes. Mais il faut résister à ces trucs-là. Est-ce qu'on a envie, les Français doivent se poser la question, est-ce que vous avez envie de vivre sans argent liquide? Est-ce que vous avez envie d'être tracé en permanence? Alors, quand je dis ça, les gens me disent, bah oui, mais t'as ton téléphone. Oui, mais mon téléphone, j'ai toujours la solution de l'éteindre. Le jour où on va être pucé, comme dans les pays nordiques, où on aura un petit truc dans la main pour ouvrir les portes, pour ceci, cela, eh ben on sera aussi tracé en permanence. Donc moi, c'est clair, hors de question.
On va terminer, Jacqueline Mouraud. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent dans leur voiture, qui vous connaissent, mais qui se disent quand même, bon, c'est bien gentil, bon, mais ça ne marchera pas, de toute façon, ça ne sert à rien. Vous l'entendez, ça, le défaitisme?
Alors, il faut lutter contre tous les défaitismes. Moi, je voudrais dire aux personnes qui vont aller voter le 10 avril, pensez à ceux qui ont perdu, qui ont donné leur vie pour sauver la nôtre. Toutes ces personnes qu'on a sur les monuments aux morts, dans chaque village, il n'y a pas un village où il n'y a pas un monument avec des noms de personnes qui sont morts pour nous. Est-ce que ces gens-là sont morts pour qu'on perde la France aujourd'hui? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on a envie de balayer ça d'un revers de main en disant bah non, c'est pas grave, nos vétérans, en fait, on s'en fout royalement.
Pas nos vétérans, nos grands-parents.
Ils sont morts pour rien.
Mais parce que vétéran, on a l'impression que c'est un truc impersonnel, hein, que c'est.
Ah bah non, mais enfin, on a.
C'est nos parents et nos grands-parents.
Nos parents, nos grands-parents.
Ou arrière-grands-parents.
Et
on a
quand même beaucoup de militaires en France. Enfin, moi, je côtoie beaucoup ces milieux-là, qui reviennent, qui sont allés nous défendre et qui reviennent quand ils ne reviennent pas entre quatre planches, comme on dit, handicapés, avec des traumatismes à vie. Parce qu'il faut quand même bien se rendre compte qu'un militaire qui fait la guerre, il revient traumatisé. Donc, est-ce qu'on a envie de nier ses engagements? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment sur le fil du rasoir. Ou on sauve notre pays, ou on le perd, ou on le laisse entre les mains des européistes et des mondialistes, évidemment, parce que ça ne s'arrêtera pas à l'Europe. C'est le mondialisme, c'est le nouvel ordre mondial. Hein, avec des citoyens dans le Webistan. C'est ça qui nous attend. Résistons et venez nous rejoindre à Reconquête.
Et ben voilà, en toute liberté, Jacqueline Mouraud, porte-parole d'Éric Zemmour, était donc mon invitée. Jacqueline Mouraud, que l'on ne présente plus. Vous êtes venue presque en voisine parce que vous connaissez bien la Presqu'île, Saint-Nazaire, etc.
Tout à fait.
Jacqueline Mouraud était donc mon invitée sur Care News ce matin.